Allô, bonjour, vous allez bien? Voilà, nous allons lire d'abord les passages de la Bible qui va diriger notre prédication de ce jour et après nous allons prier. Ok? Et ces passages se trouvent dans les livres de Josué, les premiers chapitres de Josué. On va lire les chapitres tout entiers. C'est une longue lecture, donc vous allez être patient pendant que je suis en train de lire. Josué chapitre 1 et nous allons lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie, et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne te fais de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Verset 10. Alors Josué donna des ordres aux officiers du peuple et dit, « Passez au milieu du camp et commandez au peuple en disant. » Josué parla aussi aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé et leur dit, « Souvenez-vous de ce que vous a commandé Moïse, serviteur de l'Éternel, en disant, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et votre bétail demeureront au pays que Moïse vous a donné, de l'autre côté du Jourdain, mais vous, vous passerez en armes devant vos frères et tous les hommes forts et vaillants, et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous retournerez au pays de votre possession, et vous le posséderez, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné, de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant. Et ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as commandé, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse, seulement que l'Éternel, ton Dieu, a ton commandement, et n'obéira point à tes paroles, en tout ce que tu nous commanderas sera mis à mort, fortifie-toi seulement et prends courage. » Parole du Seigneur, prions. Dieu notre Père, nous venons devant toi encore une fois cet après-midi pour humblement, encore une fois, recevoir cette nourriture que tu as prévue pour nous, que tu as prévue pour nos cœurs. Nous prions, Père éternel, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir les bonnes choses que tu as prévues pour nous dans cette parole. Merci Seigneur parce que tu vas encore une fois nous parler. Merci Seigneur parce que tu vas encore une fois m'utiliser. Ma prière Seigneur est que les paroles de ma bouche, les méditations de mon cœur Seigneur soient agréables à toi et qu'elles soient pour l'édification Seigneur de cette assemblée réunie dans ce temple. Merci Père parce que tu vas les faire. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà. Eh bien, nous venons de commencer une nouvelle année et c'est une grâce de la part de Dieu et je suis aussi très heureux d'être choisi pour ce jour afin de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient avec nous au courant du Gospel Night de cette année. Si vous étiez à Gospel Night, vous levez votre main. Ok, je vois que c'est une grande partie des personnes qui sont là. Est-ce que quelqu'un se rappelle du thème de cette année que le pasteur a annoncé cette nuit-là? Quelqu'un se rappelle du thème de cette année? Parmi ceux qui étaient là, je vois qu'il y en a nombreux qui étaient là, mais est-ce que parmi vous, il y en a un ou une qui se rappelle du thème général
de la communauté, mais aussi de la paroisse que le pasteur a annoncé pour cette année. Le révérend pasteur paroissial. Quelqu'un se rappelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, je vois qu'il y a... on va prendre Isaac d'abord. Ah, il dit la transformation. Ce n'est pas ça. Il y a la sœur qui a aussi mis sa main à l'air. On peut lui... Christ à moi, shalom. Oui, c'était le thème de la soirée. Mais le thème que le pasteur nous a donné, je vais vous aider un peu, c'est l'engagement du disciple dans la mission. Vous vous rappelez? L'engagement du disciple dans la mission. C'est ce que le pasteur a donné comme thème. Et il a cité le verset dans Jean qui dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et donc, nous sommes en mission. Cette année, nous sommes engagés pour la mission. Et le thème que j'ai choisi pour ce matin, mais aussi que j'ai aussi donné au courant de la semaine parce qu'il m'a été communiqué par les consistoires, c'est notre part et la part de Dieu dans la restauration. Ma part, notre part en tant qu'humain et la part de Dieu dans la restauration. Ok? Parce que la mission, c'est aussi une mission de restauration. On va comprendre qu'est-ce que ça signifie et on va comprendre quelle sera notre implication. Ok? Parce que quand une nouvelle année commence, il faut la commencer aussi avec un certain objectif et une certaine direction qu'on est en train de suivre. Ok? Et au courant de la semaine, pendant que nous étions en train de prier, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons notamment vu que nous tous qui avons cru en Dieu, en nous couleront des eaux vives. C'est ce que Jésus a dit. Qu'à partir du moment où nous croyons, il y a des eaux de vie qui couleront de notre sein. Des eaux de vie, ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous devenons des agents de transformation. Nous devenons ces personnes qui peuvent impacter positivement notre environnement. Mais nous avons posé la question de savoir quand des eaux vives coulent de notre sein, est-ce qu'elles sont pour le bénéfice de la source ou elles sont pour le bénéfice des récipients? Elles ne sont pas pour le bénéfice de la source, n'est-ce pas? Quand vous allez au robinet, quand vous puisez de la source qu'est le robinet, n'est-ce pas? C'est votre bidon qui est bénéficiaire des eaux qui coulent du robinet, n'est-ce pas? Et donc, si nous sommes la source d'eau vive, ça veut dire que ce sont les autres, notre entourage, qui va bénéficier de ces eaux de vie qui coulent de notre sein. Et c'est comme ça que nous devenons des agents de restauration partout où nous irons. Amen. Et nous avons besoin de restaurer beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des défis partout. Il y a des familles qui traversent beaucoup de défis. Nous-mêmes, nous traversons beaucoup de défis. Il y a des choses peut-être pour lesquelles nous avons prié au courant de l'année passée et qui ne sont pas arrivées. Il y a des sujets de prière que nous avons depuis des années et nous n'en avons pas encore vu de réponse. Il y a beaucoup de ténèbres, il y a beaucoup de défis dans notre monde, des challenges dans notre nation, dans nos familles, dans notre milieu d'éducation. Et nous continuons à prier pour ça, mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous pouvons être des personnes ressources et des solutions pour les problèmes autour de nous. Parce que nous avons une part exactement dans cette restauration que Dieu veut amener dans nos familles, dans nos vies personnellement et dans notre nation. Parce que quand Dieu opère, il opère, oui, il opère des miracles, mais nous devons coopérer pour que ces miracles soient manifestes dans notre vie. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Quand l'ange vient devant Marie et lui dit, voilà, tu vas enfanter, qu'est-ce que Marie a dit? Elle a coopéré, n'est-ce pas? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, pour que la volonté parfaite de Dieu soit évidente dans notre vie, nous devons coopérer avec ce qu'il veut opérer. Dieu opère et nous devons coopérer pour que ça soit manifeste. Et donc pour aujourd'hui, nous allons apprendre de Josué comment est-ce que nous pouvons être ces personnes-là ou ces groupes de personnes qui sont des agents de restauration, qui sont des personnes qui vraiment jouent leur rôle dans la restauration, non seulement de nos familles, dans la restauration de ces pays, dans la restauration de notre environnement, ainsi de suite. Comment nous pouvons être ces personnes? Comment est-ce que nous pouvons être ces groupes de personnes? Parce qu'une des choses dont nous devons nous rappeler, peu importe les défis que nous pouvons être en train de traverser dans la vie, Dieu a un plan. Et son plan ne dépend ni des circonstances, son plan ne dépend pas de comment les choses changent, de tous les changements constants que nous pouvons voir dans cette vie. Les plans de Dieu restent les mêmes et les plans de Dieu s'accomplissent toujours. Dieu a un plan et ce plan-là ne dépend pas des circonstances. Et il a un plan même pour ce pays. Malgré toutes les choses qui peuvent peut-être nous amener à être confiés, à nous poser des questions, de savoir est-ce que réellement Dieu est à l'œuvre en RDC, je suis venu encore une fois vous annoncer que Dieu a un plan. Et son plan est à l'œuvre. Et son plan, c'est un plan d'espérance, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix. Peu importe ce qu'on peut dire sur ce pays, le plan de Dieu reste le même. Et nous pouvons être, si nous coopérons avec lui, nous pouvons être ces gens-là qui rendent manifeste ce plan de paix ici même. Ici même. Le plan de Dieu peut se résumer en ces mots que le prophète Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je ne sais pas comment tu commences cette année, mais Dieu te dit qu'il a un avenir pour toi et de l'espérance. Il a un avenir pour toi et de l'espérance. Chapitre 54, verset 10, dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a de la compassion pour toi. » Les plans de Dieu restent les mêmes. Les montagnes peuvent s'éloigner. Les collines peuvent chanceler. Il peut y avoir beaucoup de changements autour de nous, mais Dieu nous rassure que son amour ne s'éloignera pas de nous. Et son alliance de paix ne chancellera point. Les plans de Dieu restent les mêmes. Ils ne dépendent d'aucune des circonstances que nous pouvons être en train de traverser collectivement, mais que tu peux aussi être en train de traverser individuellement. Son amour ne s'éloignera point de toi. Mais pour ça, il faut que tu coopères. Coopérer. Et dans tous les cas, le plan de restauration de Dieu a toujours trois étapes importantes. Trois étapes importantes. Et si vous ne connaissez pas la signification du mot restauration, restauration signifie simplement la remise à l'état d'origine. Quelque chose peut être brisé, n'est-ce pas? Un cœur peut être brisé. Une voiture peut être en panne, si on veut la restaurer, ça veut dire qu'on va la remettre en marche, on va la remettre à l'état d'origine. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Parce qu'à un moment, oui, l'homme a été brisé, l'homme s'est rebellé, mais Dieu, dans l'histoire, on voit encore et encore qu'il nous poursuit pour faire quoi ? Pour nous restaurer. Pour nous restaurer. Et ce plan de restauration-là est toujours en trois étapes. La première étape, c'est la délivrance. La délivrance. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et lui dire la délivrance? La délivrance. La délivrance non seulement individuelle, mais aussi collective. Parce que la délivrance, il est difficile pour nous d'être des agents de transformation. Il est difficile pour nous d'amener la paix, d'être des personnes efficaces ou des personnes qui restaurent les choses si nous-mêmes, nous sommes encore enchaînés. Si nous-mêmes, nous avons encore besoin d'être libérés de certaines addictions, d'être libérés de certaines choses, de l'incrédulité, des antivaleurs et beaucoup d'autres choses qui peuvent peut-être être encore en train de nous garder dans les chaînes et ne nous permettent pas d'aller en avant dans cette restauration que Dieu veut mettre en œuvre dans notre vie. Nous devons d'abord être délivrés. Dans les livres de Josué, nous sommes en train de lire l'histoire du peuple d'Israël qui vient de passer 40 années dans le désert, en train de tourner un voyage qui devait faire 11 jours, mais à cause de la désobéissance de certains, ils ont dû faire 40 ans. Mais nous les trouvons quand même à la porte de la terre promise. Mais avant même qu'ils n'arrivent dans le désert, l'Éternel a opéré d'abord une délivrance pour eux. Son plan reste le même pour toutes les nations que nous voyons. Il y a toujours une délivrance qui commence quelque part. Ces peuples étaient esclaves pendant 400 ans et Dieu, à travers Moïse, les a délivrés de l'esclavage afin qu'ils soient réellement ces peuples qui vont les représenter pour toutes les nations de la terre. C'est ce qu'il a dit. Libère ces peuples afin qu'ils puissent me servir. Délivre, il délivre pour que nous puissions réellement être ses représentants, pour que nous puissions réellement jouer les rôles qu'il a pour nous. Les plans de Dieu, les plans de restauration commencent toujours par la délivrance. Je ne sais pas si dont l'Éternel a besoin de te délivrer ce matin, mais il faut que tu pries. Seigneur, montre-moi quelles sont les choses qui m'empêchent d'être réellement la personne qui peut amener la paix, qui peut être un agent de transformation dans ma famille, dans mon école, dans mon université, partout où tu m'envoies. Quelles sont les choses qui m'empêchent de vivre pleinement la destinée que tu as pour moi? L'Éternel a besoin de nous délivrer. L'Éternel a besoin de te délivrer. L'Éternel a besoin de me délivrer. Nous devons prier Dieu et lui demander, cette année, je ne vais pas avoir des chaînes et des choses qui pèsent encore sur mon cœur ou qui pèsent encore dans mon esprit qui m'empêchent réellement d'être la personne que tu veux que je sois. Je ne sais pas si c'est une addiction, je ne sais pas si c'est une culpabilité de l'année passée, je ne sais pas si c'est une blessure, mais l'Éternel a besoin de faire quoi? De nous délivrer pour que nous soyons capables de vivre notre destinée en lui. La deuxième étape du plan de restauration de Dieu, c'est le développement. Le développement. J'ai parlé de la délivrance, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est le développement. Parce que quand l'Éternel a délivré les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il les a fait passer dans le désert. Et le temps qu'ils ont passé dans le désert était un temps de développement. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, ce n'était pas vraiment une nation. Mais le plan de l'Éternel, c'était de former une nation qui allait les représenter pour tous les peuples de la terre. Et donc, si on veut voir à quoi Dieu ressemble, on devait se tourner les yeux vers la nation d'Israël. C'était le plan de Dieu à cette époque-là. Et même aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Si on veut voir à quoi ressemble Dieu, c'est nous, c'est l'Église, qui devons réellement montrer à ce monde à quoi ressemble Dieu. Mais pour ça, il doit nous développer. Nous devons passer par son école. Nous devons voir quelles sont les choses qui nous empêchent de le connaître. Nous devons développer notre foi. Cette semaine, nous avons beaucoup parlé du fait que l'un des plus grands problèmes des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de foi. C'est de ne pas croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis, que ce qu'il dit est accompli. Il est très différent de nous. Ce qu'il dit, il est déjà accompli. Ce qu'il dit, il est déjà accompli. Et donc, le développement, c'est cette période. En théologie, on dit la sanctification, mais Dieu doit nous développer. Il doit enlever de nous des choses qui nous empêchent d'être vraiment la stature parfaite des personnes qu'il veut que nous soyons. Nombre d'entre nous veulent être utilisés par Dieu cette année, n'est-ce pas? On veut être utilisés par Dieu cette année, on veut les représenter, n'est-ce pas? Mais pour que Dieu utilise un homme, on dit qu'il doit d'abord les briser profondément. Dieu n'a jamais utilisé un homme ou une femme sans qu'il ne l'ait brisé profondément, sans qu'il ne l'ait raffiné. Je ne sais pas si vous connaissez le cycle de comment le pétrole est, avant qu'il n'arrive dans nos moteurs, comment est-ce qu'on le traite, hein? Mais le pétrole qui est celui qui nous produit l'essence et les mazouts, ainsi de suite, on appelle tout ça pétrole. Tous, les mazouts, l'essence, ce sont tous des produits dérivés du pétrole. Ça va? On a tous compris ça. Alors, quand on l'extrait à l'état brut de la terre, il n'est pas utilisable. Tu ne peux pas le mettre dans ton petit moteur ou tu ne peux pas le mettre dans ta voiture et espérer que cette voiture-là va marcher. C'est pour ça que les gens ont réfléchi et ils ont créé ce qu'on appelle des raffineries. OK? Des raffineries. Et donc, c'est le pétrole-là, à l'état brut, il passe par une raffinerie. Il passe par des procédés chimiques où on enlève toutes les impuretés, ça peut être les poussières qu'il y avait sous la terre, beaucoup de choses. Et après, on a maintenant l'essence, on a le mazout prêt à être utilisé dans nos engins. Et c'est ça même le développement dont je suis en train de vous parler. Il faut que Dieu qui nous a extraits du royaume des ténèbres, qui nous a délivrés de tout ce mal qu'il y avait en nous et autour de nous, puisse nous faire passer par ces raffinement-là, puisse nous enlever toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être utiles à ce monde qui souffre. Vous êtes en train de comprendre ces concepts. Il faut que Dieu nous raffine. Il faut qu'il enlève ces choses qui nous empêchent réellement d'être purs et utiles pour son œuvre ici à l'Église et partout où nous irons, partout où il nous a placés. Deuxième étape, c'est le développement. Il faut que Dieu nous développe. Il faut que Dieu enlève notre orgueil. Il faut que Dieu enlève nos antivaleurs. Il faut qu'il fasse de nous réellement ces personnes d'intégrité. Que quand on va les voir, on dit, on a confiance en cette personne parce qu'on a déjà vu réellement qu'elle vit ce qu'elle dit, que tout ce qu'elle professe, elle le vit. Et après que Dieu nous ait raffinés, après comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, il les a maintenant amenés dans la destinée, leur destinée. Et donc c'est ça la troisième étape. Parce que Dieu a un plan. Il ne te forme pas pour rien. Il te forme parce qu'il a un rôle spécifique que tu dois jouer dans l'histoire. Chacun d'entre vous ici, si vous cherchez Dieu, si vous marchez avec lui, si vous lui permettez de vous raffiner, si vous lui permettez de faire de vous des personnes qu'il veut que vous soyez, il va exactement vous révéler les rôles exacts que vous avez joués. Ça peut être ici dans cette paroisse, ça peut être n'importe où, parce que la vie est longue. La vie est très longue. Et donc il y a une destinée que Dieu avait pour Israël. Dans ce contexte ici, c'était la terre promise. Il fallait qu'il passe par cette étape-là de raffinement dans les déserts, qu'il fasse d'eux d'une nation. Vous savez que c'était un peuple qui murmurait à chaque chose. Mais quand ils sont arrivés devant la terre promise, quand on parle de Josué chapitre 1 ici, on trouve un peuple, c'est vrai, il s'est débarrassé de toute cette génération-là des rebelles, parce qu'il avait promis que cette génération, comme elle s'est rebellée contre moi, elle va toute rester, sauf deux personnes, Josué et Caleb, et leurs descendants bien sûr. Il s'est débarrassé, il a raffiné vraiment, tellement que ceux qui se sont présentés aux portes de la terre promise, c'était vraiment des personnes bien formées, c'était une nation, c'était des personnes unies, c'était des personnes qui étaient prêtes à entrer dans la destinée que Dieu avait pour ses peuples. Et donc, la troisième étape, c'est la destinée. Et Dieu a une destinée pour nous. Il a une destinée pour cette église, il a une destinée pour chacun d'entre nous et nous avons tous un rôle à y jouer. Nous avons tous un rôle à y jouer. Et c'est là maintenant qu'on trouve Josué. Il est approché par Dieu et Dieu lui dit, il approche Josué qui est le successeur désigné de Moïse. Vous et moi les savons, nous avons grandi, j'espère, dans l'église et nous connaissons que c'est Moïse qui a guidé ce peuple pendant ses 40 ans dans le désert. Mais maintenant, c'est Josué qui a été le successeur de Moïse. Et Dieu l'approche et lui dit, mon serviteur, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce documentaire sur le lieutenant-colonel Mamadou. Quelqu'un l'a déjà suivi? Personne, hein? Ok, c'est un documentaire d'Al Jazeera, vous pouvez le chercher sur YouTube. Il parle un peu de Mamadou jusqu'à sa mort. Les documentaires, c'est lieutenant-colonel Mamadou, je ne sais qui, et puis on dit jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça le titre du documentaire. Vous pouvez le chercher sur YouTube, c'est très intéressant. Et les documentaires se terminent exactement quand Mamadou meurt. On voit la voiture où il était quand elle a été touchée par un obus. Il y a ces soldats qui l'enlèvent du feu. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est comment ces jeunes soldats qui l'accompagnaient étaient en train de pleurer. Ils pleuraient vraiment parce que leur chef venait de mourir. Ils étaient dans le désarroi total. Ils étaient complètement choqués par ce qui venait d'arriver. Parce que Mamadou était devenu un symbole de la libération, était devenu un symbole du patriotisme. C'était vraiment un grand leader. Mais bah, il est mort. Et ces soldats pleuraient, je te dis, il faut voir les petits clips pour y croire. C'est vraiment intéressant, ils ont pleuré. Et je pense que c'est ce qui était en train d'arriver dans Josué maintenant, quand Dieu lui a parlé. Josué, vous savez, il a marché avec Moïse pendant 40 ans. On dit que Josué était le serviteur de Moïse. Quand il fallait envoyer quelqu'un être général à la guerre, vous voyez, Josué, on le mentionne pour la première fois dans la Bible, dans Exode chapitre 17. Quand le peuple d'Israël va combattre les Amalekites. Et après, on voit ce Josué être toujours là pour Moïse. Il était en train de le servir. Il l'accompagnait. Moïse était vraiment ses pères spirituels pour Josué. Et ici, on retrouve Josué en train de le plaire. Mais Dieu est en train de lui rappeler quelque chose ici. Que Moïse, il est mort. Il ne va plus revenir. Il est temps pour toi de faire quoi? De t'élever. C'est ton tour. C'est à toi maintenant de jouer, de prendre les rôles pour lesquels je t'ai préparé pendant ces 40 longues dernières années où tu as accompagné, tu étais à l'ombre de Moïse, mais il est temps pour toi de faire quoi? De t'élever. Dieu lui-même lui dit, lève-toi. Parce qu'on sent vraiment que Josué était accablé. Il était à genoux, il ne savait pas quoi faire, mais Dieu veut encore lui rassurer qu'il est temps de t'élever. Passe ce Jourdain. Moïse est mort, c'est passé maintenant. C'est à toi maintenant de faire quoi? De jouer ton rôle et d'entrer dans ta destinée. Ton heure est arrivée de faire ce à quoi je t'ai préparé. Il était encore sous le choc peut-être de la mort de son maître, mais il était temps pour lui de faire quoi? De surmonter la peine, l'insécurité. Il peut y avoir une insécurité quand on remplace quelqu'un qui était grand, n'est-ce pas? On peut se sentir ne pas être à la hauteur de la tâche, mais Dieu est en train de lui dire, lève-toi parce que ton heure est arrivée. Et je suis en train de vous dire aussi que vous devez vous lever cette année parce que votre heure, c'est maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Ton heure est arrivée, il est temps maintenant de marcher dans notre destinée. Dieu a des grandes promesses pour nous. Dieu a des grandes promesses pour nous individuellement. Dieu a des grandes promesses pour nous collectivement. Mais pour que nous puissions nous les approprier, nous devons tourner le dos au passé. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore dans l'euphorie de l'année passée. Il y a beaucoup d'entre nous qui réfléchissent encore au succès de l'année passée. Ce n'est pas mauvais de se rappeler du passé. Ce n'est pas une mauvaise chose de se rappeler des bonnes choses ou bien des mauvaises qui se sont passées, mais ça peut être dangereux de demeurer dans le passé. Ça peut être très dangereux ou fatal de demeurer dans le passé. Ce que Dieu est en train de dire à Josué maintenant, c'est que le temps de Moïse, il est passé. Il est temps maintenant pour toi de te lever et d'entrer dans ta destinée. Je ne sais pas quels sont les fantômes que vous avez encore de l'année passée, mais Dieu vient de nous donner une nouvelle année. Il nous donne une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de faire quoi? De nous lever et de vivre la destinée qu'il a pour nous. Et pour ça, nous devons tourner le dos au passé. Nous devons tourner le dos au passé. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, je pense que vous connaissez beaucoup ces versets, 43, les versets 18 et 19, il dit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. » Ne vous rappelez plus des choses passées. Bien sûr, si tu as la dette de quelqu'un de l'année passée, elle va te poursuivre cette année. Bon, il est au que tu le veuilles ou pas. Ok? Ne vous rappelez plus des choses passées. Nous devons tourner le dos au passé. Il y a des personnes qui en sont en train encore de marcher dans cette nouvelle année avec des blessures de l'année passée. Vous êtes en train de marcher avec la culpabilité de l'année passée. Vous êtes peut-être en train de marcher avec l'amertume de l'année passée. C'est à ça que Dieu veut que nous puissions tourner le dos. Ne vous rappelez plus des choses de l'année passée. Ça peut être aussi des antivaleurs que nous avions l'année passée. Il faut y tourner le dos. Nous devons y tourner le dos. Nous devons y tourner le dos. Parce qu'il est fort possible qu'on puisse manquer, qu'on ne puisse pas être efficace pour ce à quoi nous appelle cette année, parce qu'on est encore attaché au passé. On est encore attaché au passé. Il est très difficile d'être efficace aujourd'hui, à ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui, si on est encore porteur des fardeaux du passé. Et aujourd'hui, je suis venu encore te rappeler que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. » Et donc, je ne sais pas quel est le fardeau que tu portes encore de l'année passée, mais présente-le devant Dieu aujourd'hui. Présente-le devant Dieu parce qu'il est capable de le porter. Et c'est un Dieu qui se préoccupe de toi, qui se préoccupe de tous nos besoins. Il est capable de t'aider afin que tu puisses entrer dans la destinée qu'il a pour toi. Et donc, le temps du deuil est passé. C'est ce que Dieu est en train de dire à Josué. Le temps du deuil est passé. Il est temps maintenant de faire quoi? D'aller de l'avant. Il est temps de faire quoi? D'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Moïse est mort. Mais le travail de Dieu fait quoi? Il continue. Le travail de Dieu continue parce que le travail de Dieu ne dépend d'aucun de ses ouvriers. Le travail de Dieu ne dépend d'aucun de ses ouvriers, même des plus forts. Il va toujours de l'avant. Il va toujours de l'avant. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans toute sa puissance, il choisit de travailler au travers de nous. Mais pour ça, nous devons être disposés. Nous devons être disposés. Nous devons être disponibles. Dieu n'a pas besoin de tes capacités. Il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin de ta disponibilité. Je ne sais pas s'il y a des personnes, des jeunes gens et des jeunes filles qui vont être disponibles pour que Dieu puisse les utiliser cette année. Soyez seulement disponibles. Coopérez avec ce que Dieu veut faire. Et après, il dit, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, je donne. Il ne dit pas, je donnerai, je donne. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne. Ça veut dire que pour Dieu, toutes les promesses qu'il avait faites aux enfants d'Israël étaient déjà accomplies. Elles étaient déjà accomplies. Légalement, cette terre était déjà la leur. Légalement, la terre promise appartenait déjà aux enfants d'Israël. Toutes les promesses que Dieu a pour ma vie et la tienne sont oui et amen en Christ. C'est ce que Dieu dit. Elles sont oui et amen. Donc, c'est légalement, elles sont nôtres. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Pour que ces promesses-là soient littéralement nôtres, nous devons agir par la foi. Nous devons marcher dans la foi. Pour que nous puissions nous approprier littéralement de toutes les promesses que Dieu a pour nos vies, hein, nous devons agir, nous devons accomplir des actes de foi. Pour rendre des promesses légales, littérales, il faut des actes de foi. Il y a un exemple que j'ai donné, et je vous le donne aussi, c'est que il peut arriver que votre père ou votre maman, il y en a qui sont encore à l'école. Ok, voilà, quelques, voilà. Il peut arriver que, vous savez, quand on venait devant nos parents, c'est quand il y avait un communiqué, bon, vous devez payer la première tranche, n'est-ce pas? C'est là qu'on s'est présenté devant papa, on dit, on nous a demandé de payer la première tranche. Mais il peut arriver que les parents anticipent. Papa et maman se concertent et disent, bon, nous allons payer pour toute l'année pour nos enfants. Nous allons tout payer, n'est-ce pas? Déjà au début de l'année, ils payent tout. Ils payent tout. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont tout payé, nous sommes bénéficiaires d'une éducation gratuite. Parce que nos parents ont tout payé, n'est-ce pas? Nous sommes bénéficiaires d'une éducation gratuite. Ils ont déjà tout payé. Mais il faut savoir que si nous ne nous présentons pas au cours, si nous ne faisons pas nos devoirs, si nous n'étudions pas, cette éducation gratuite ne nous sera pas bénéfique. Elle ne nous sera pas bénéfique. Elle ne nous sera pas bénéfique. Pas parce que les parents ont échoué dans leurs promesses, mais c'est parce que nous n'avons pas été en mesure de nous approprier de l'éducation gratuite qui était déjà nôtre. C'est la même chose que Dieu est en train de dire ici. Cette terre, je vous la donne, elle est déjà la vôtre. Mais si vous ne marchez pas par la foi, si vous ne faites pas les pas de foi, vous n'allez pas vous approprier de cette promesse-là. Vous n'allez pas vous approprier des promesses de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que cette année, nous puissions encore une fois être des personnes qui ont non seulement la foi, mais qui obéissent à ce que Dieu nous demande de faire. Parce que c'est en obéissant, c'est en marchant par la foi que nous approprions des promesses que Dieu a mises à notre disposition. L'éducation, elle est gratuite, mais nous devons étudier. Nous devons faire nos devoirs, nous devons être présents au cours pour nous approprier des promesses que Dieu a pour nous. Amen. Et donc Dieu nous délivre, il nous développe et il nous amène dans notre destinée. Chacun individuellement, mais nous tous aussi collectivement. Mais pour ça, nous devons répondre très bien à ces trois questions. La première, c'est est-ce que nous avons déjà dit oui à la délivrance de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons déjà dit, oui, Seigneur, délivre-moi, il y a des choses dans ma vie que je sais qui ne te plaisent pas. Ma conscience elle-même n'est pas tranquille parce qu'il y a des choses que je fais dont je ne suis pas fier. Est-ce que nous avons déjà dit oui à cette délivrance-là? La deuxième question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que nous sommes prêts à développer notre foi? En allant à son école, en faisant nos devoirs, lire la parole de Dieu, ainsi de suite, faire toutes ces choses, servir. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu développer notre foi en allant à son école? Et la troisième chose, est-ce que nous sommes engagés? J'ai commencé en disant que la mission cette année est à vivre en fonction de la destinée que Dieu a pour nous. Est-ce que nous sommes engagés? Ça veut dire que nous devons vivre aujourd'hui à la lumière de l'éternité. Parce que nous sommes ces personnes qui sont là pour faire quoi? Pour être l'expression du royaume de Dieu ici sur terre. Je ne sais pas pourquoi tu vis, mais en tout cas moi, je sais que Dieu m'a établi pour être un représentant du royaume de Dieu ici sur terre. C'est pour ça qu'il nous a choisis. C'est pour ça qu'il nous sauve. Mais nous devons savoir, nous devons poser la question de savoir, est-ce que nous sommes engagés à vivre en fonction de cette mission et de cette destinée? Et ces trois questions doivent trouver réponse en chacun d'entre nous, mais aussi collectivement pour nous tous en tant que groupe. Parce que Dieu, quand il agit à travers l'histoire, il agit à travers des personnes, mais aussi il agit à travers des groupes de personnes qu'on appelle aussi des peuples, groupes d'individus. Et les genres de personnes que Dieu utilise, je dis que Dieu, quand il est en train d'agir à travers l'histoire, il agit à travers des individus, ça veut dire des personnes, toi là, avec toutes tes déficiences, Dieu peut agir au travers de toi pour montrer combien il se glorifie à travers nos faiblesses. Amen. C'est pour ça que Dieu choisit d'utiliser des personnes faibles comme nous pour agir, parce que c'est là qu'il se glorifie le plus. Il y a un hymne que j'aime beaucoup vraiment. C'est en anglais, mais il dit « Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. » Il dit « Je ne viens avec rien dans mes mains, mais je m'accroche seulement à la croix. » Parce que quand je m'accroche à la croix de Jésus, je sais que Dieu peut m'utiliser même quand je n'ai rien dans mes mains. Ce n'est pas question de vos capacités. Je l'ai encore dit et je le répète, soyez disponibles. Et Dieu peut vous utiliser. Et donc Dieu agit à travers des individus, mais ces genres d'individus doivent avoir quatre caractéristiques que j'aimerais que vous puissiez noter cet après-midi. La première, c'est que ces personnes-là doivent être en synergie avec Dieu. Si vous voulez être de ces genres d'individus, de ces genres de personnes que le Seigneur va encore une fois utiliser pour la restauration partout où nous sommes, en famille, à l'école, dans cette nation, nous devons être des personnes qui sont en synergie avec Dieu. Être en synergie avec Dieu, ça veut dire être en synchronisation avec Dieu. Ça veut dire qu'avant même de poser une action, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que réellement c'est ce que Dieu veut faire ici, en ces lieux? Une personne qui est en synergie avec Dieu sait qu'avant de dire, voici mon plan d'action pour cette année. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de plans pour cette année. Vous avez mis en place des plans, vous êtes en train d'écrire, vous dites, cette année je vais faire ça, 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 ça. Mais la personne qui est en synergie avec Dieu, avant de dire, voici mon plan pour cette année, la question qu'il se pose est, quel est le plan de Dieu pour moi et pour toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité pour cette année? C'est ça, être en synergie avec Dieu. Ça veut dire que je ne passe pas à l'action tant que je n'ai pas l'assurance que c'est ce que Dieu veut accomplir ici et maintenant. Amen. Aucune tâche, aussi importante et sacrée qu'elle soit, ne doit être entamée sans la conviction que c'est réellement ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça, être en synergie avec Dieu. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en synergie avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de marcher selon la volonté de Dieu pour notre vie? La première chose, c'est que quand ce que nous voulons faire est basé sur sa parole. Quand ce que nous voulons faire est basé sur quoi? Sur sa parole. Quand ce que nous voulons faire est basé sur ses paroles. C'est pour ça que Dieu, quand il approche Jésus, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et je vous répète encore qu'il a dit de ta bouche, pas de ta tête, pas de ton cœur, pas de ta bouche. Je ne sais pas si vous voyez la magnitude de ce qui est en train d'être dit là-bas. Ça veut dire que nous devons être ces personnes qui ont la sagesse divine qui vient de leur bouche, n'est-ce pas? Cette livre, nous y avons médité, nous avons ruminé. Ça veut dire que quand on va parler, on va vraiment sentir une certaine saveur du ciel quand nous parlons. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, pas seulement de ta tête. Tes actions, tes paroles, tout doit être informé par cette parole que tu as méditée jour et nuit. Et c'est là que tu vas agir d'une manière qui est en synchronisation avec l'œuvre de Dieu à travers l'histoire, à travers ce pays. La deuxième chose pour que nous sachions que nous sommes en train de faire des choses qui sont en synergie avec la volonté de Dieu, c'est que nous devons analyser profondément nos motivations. Quelles sont les motivations derrière tes actions? Quelles sont les motivations derrière tes actions? Parce qu'il arrive des fois que nous pouvons faire des choses par orgueil, par intérêt personnel. On veut seulement que Nassib Atuitique, on veut seulement que les gens voient que ah, il est vraiment intelligent ce monsieur. Eh bien, il faut vraiment analyser profondément nos motivations, parce qu'on peut des fois confondre nos intérêts personnels, notre orgueil, avec la voix de Dieu. C'est fort possible, donc analysez profondément vos motivations cette année. Qu'est-ce qui vous motive à passer à l'action? Passez du temps dans la parole. Passez du temps dans la parole. Deuxième chose qu'on voit chez Josué, comme étant une personne que Dieu va utiliser pour la restauration de la nation d'Israël, c'est que c'était une personne prête à agir en fonction des instructions reçues de Dieu. Il est passé à l'action. Les personnes que Dieu utilise pour la restauration, ce sont des personnes qui passent à l'action. Passe à l'action, parce que beaucoup d'entre nous, nous apprenons beaucoup, mais nous ne faisons pas, nous faisons moins. On a dit, vaut mieux une seule action que mille intentions. Une seule action vaut mieux que mille intentions. Et surtout si cette action est bonne et qu'elle est inspirée par la parole de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à agir en fonction des instructions reçues de Dieu. Et parce que beaucoup de gens ont peur de passer à l'action, ils ont peur de passer à l'action parce qu'elles voient les prix à payer. Elles disent, moi, m'élever très tôt pour passer du temps dans la parole, ou bien moi, venir ici chaque samedi pour nettoyer la cour, les bureaux, les temples, tout ça. Quand on voit les prix à payer, on se dit, non, je préfère dormir. Je préfère passer mon temps en train de jouer, je préfère passer mon temps en train de parler avec mes amis, ainsi de suite. Mais réellement, les personnes qui amènent la restauration, les changements, la vraie transformation, ce sont des personnes qui passent à l'action. Elles ont déjà l'assurance que ce que je vais faire, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Et elles passent à l'action. Elles passent à l'action. Des personnes prêtes à agir en fonction des instructions reçues de Dieu. Jésus lui-même était une de ces personnes-là. On nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, « Nous donc aussi, à son exemple, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a vu la joie, il a vu ce que les salis qu'il a portés à l'humanité allaient produire. Et il a fait quoi? Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, parce qu'il est passé par beaucoup d'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les pactes sont les fruits des plus grands sacrifices. Des plus grands sacrifices. Et Jésus, lui, il a fait les sacrifices suprêmes parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Troisième chose, c'est que ce sont des personnes qui associent les autres à la tâche. Josué n'a pas agi seul. On voit déjà par la suite qu'il appelle les capitaines que Moïse avait établis. C'était déjà une manière d'organiser les hommes que Dieu avait déjà mis en place quand Jéthro a parlé à Moïse. Et on voit même Josué utiliser ces capitaines-là. Il a dit, ok, organisez les gens qui sont sous votre responsabilité. Il n'a pas agi seul, il a associé les autres à la place. Il n'y a rien qui ruine les groupes. Ça peut être une chorale, ça peut être une commission. Il n'y a rien qui ruine ce genre de groupe que des responsables qui centrent toutes les tâches sur eux-mêmes. Il n'y a rien qui ruine que des responsables qui tâchent toutes les tâches sur eux-mêmes. Cette année, si nous voulons voir les changements, si nous voulons voir l'impact, le « nous » doit toujours précéder le « moi ». Le « nous » doit toujours précéder le « moi ». Proverbe 18, verset 1 dit, « Celui qui s'isole suit son inclination, il s'obstine contre toute raison. » Ça veut dire qu'une personne qui s'isole, moi, myself and I, c'est ce qu'on dit en anglais, hein, ça veut dire qu'il est là pour ses propres intérêts, il suit son inclination. Il s'obstine contre toute raison. Quatrième chose, rapidement, c'est que ce sont des personnes qui ont des directives claires. J'ai parlé du fait qu'avant de planifier, nous devons demander à Dieu qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire, mais après que Dieu ait parlé, il ne nous laisse pas dans le noir. Il sait, il a dit à Josué, rassemble les peuples et vous allez faire quoi? Vous allez passer les Jourdains. Il y a des directives claires. Si tu es responsable d'une commission et même toi individuellement pour tes études ou pour ton travail, tu dois toujours avoir un plan clair de ce que tu vas faire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont commencer cette nouvelle semaine sans trop savoir d'afanine. Tu vas seulement au fil du vent, tu t'es emporté par le courant. Mais déjà aujourd'hui, pour des personnes qui ont des directives claires, elles savent que demain, je fais ça. Après-demain, je fais ça. C'est ça des personnes qui font quoi? Qui ont un impact. Et enfin, comme je l'ai dit, Dieu n'agit pas seulement à travers des individus. Il agit aussi à travers des groupes d'individus. Parce que ce chapitre ici de Josué que nous venons de lire, c'est vrai, je m'excuse, c'est long. La Bible ne nous présente pas seulement Josué. Elle nous présente aussi un peuple. Elle nous présente aussi le peuple d'Israël. Et une des choses qui m'a le plus marqué dans ce premier chapitre de Josué, c'est ce que nous lisons dans Josué chapitre 1, versets 12 à 15. Je vais les lire très rapidement. La Bible nous dit que Josué dit aux Ribénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. » Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce qui se passe ici, mais ces trois peuples qui sont en train d'être cités ici, les Ribénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, ils avaient déjà reçu leur terre. Ils étaient déjà établis. Parce que si vous lisez en Deutéronome chapitre 3, versets 12 à 13, et si vous lisez tous les chapitres de Nombre 32, vous allez comprendre que ces peuples avaient approché Moïse quand ils ont vu la terre de l'autre côté du Jourdain. Ils ont dit, cette terre, elle est bonne pour nos bétails. Est-ce que tu peux nous l'accorder? Ils ont approché Moïse et lui ont dit, est-ce que tu peux nous accorder que nous puissions rester ici? Et Moïse les a fait faire une promesse. Il a dit, vous ne pouvez pas vous établir ici et oublier que vos frères n'ont pas encore leur part de l'héritage. Et donc, vous devez me faire la promesse que même quand vous allez vous établir ici, vous enverrez vos hommes vaillants faire quoi? Aller aider les autres à conquérir l'autre côté du Jourdain. Et ces gens-là ont promis à Moïse de les faire. Et c'est cette promesse-là que Josué est en train de leur rappeler ici. Il est en train de leur dire, oui, vous vous êtes déjà établi, mais rappelez-vous, vous avez promis que vous allez faire quoi? Que vous allez aider vos frères. Et donc, si nous voulons être les groupes d'individus qui veulent vraiment transformer notre environnement, qui veulent voir la transformation, le royaume de Dieu être manifeste dans nos quartiers, dans notre pays, nous devons faire du bien-être de toute la communauté notre préoccupation. Nous devons faire du bien-être de toute la communauté notre préoccupation. Parce qu'il est difficile quand on est dans sa zone de confort de faire quoi? D'en sortir pour aider les autres. Quand on est confortable, c'est très difficile de se dire que ah, il y a quand même tel qui souffre aussi. Mais c'est à quoi Dieu nous appelle à travers l'exemple de ces trois peuples, c'est de faire quoi? C'est de quitter notre zone de confort, c'est d'avoir la compassion pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, de ne pas seulement nous réjouir du fait que nous avons déjà une paroisse avec la lumière et toutes ces bonnes technologies, mais de faire du bien-être de toute la communauté notre préoccupation. Les autres ne sont pas encore arrivés. Et donc nous qui avons de l'avance, nous devons faire quoi? Nous devons les amener. Il y a beaucoup de nos amis qui sont perdus. Ça peut être nos frères, nos sœurs, des membres de nos familles qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle du Christ. Et si nous restons indifférents à leur perdition, ils vont continuer dans leur perdition. Alors que Dieu peut nous utiliser, nous, pour faire quoi? Pour les amener petit à petit à comprendre que le plan merveilleux que Dieu a pour nos vies n'est pas seulement pour nous, mais pour eux aussi. Nous devons faire du bien-être de toute la communauté, notre préoccupation pour que la restauration soit effective. La dernière chose, c'est que ce peuple, après que Josué leur parlé, lui ait parlé, ils se sont mis d'accord et ils ont dit quoi? Les derniers versets, « Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse, veille seulement à l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec nous. » Nous t'obéirons entièrement. Ça veut dire qu'ils se sont tous soumis à l'autorité de qui? De Josué. Et c'est ça ce qu'on appelle l'unité. Quand nous sommes tous soumis à une seule autorité, quand il n'y a pas de rebelles parmi nous, quand nous avons tous compris que c'est à quoi Dieu nous appelle en tant que groupe d'individus et que nous entendons la voix de ceux qui nous dirigent et que nous nous soumettons à ça, c'est là que l'unité commence. Parce que si nous voulons vraiment être des acteurs, des personnes, des agents de restauration, nous devons être unis en objectif et en action. Nous devons être unis en objectif et en action. Dans un pays où on est divisé sur n'importe quoi, où tout le monde est en train de suivre ses propres intérêts, nous, en tant qu'Église, nous devons être quoi? Unis en objectif et en action. Nous devons être unis, soumis à notre Maître qui est le Christ. Et ce qu'il nous dit de faire, c'est ce que nous faisons. Vous savez, la dernière prière que Jésus a faite pour ses disciples, c'était la prière de dire, « Je ne suis plus dans ce monde. » Jean chapitre 17, verset 11. « Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient, il n'a pas dit qu'ils soient les plus populaires, il n'a pas dit qu'ils soient les plus friqués, il n'a pas dit qu'ils soient les mieux habillés, non, afin qu'ils soient un. » Il a dit « Afin qu'ils soient un. » Unité. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples qui lui entouraient, mais il a aussi prié pour notre unité, parce qu'au verset 20, il continue en disant « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. » C'est nous qui avons crié en lui après ses disciples. C'est nous qui avons crié à cet héritage de foi qui passe de génération en génération. Et la même prière que Jésus a faite pour ses disciples ces jours-là, il l'a fait pour nous. Et il a dit « Je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'ils aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le monde va réellement croire qu'il y a un plan merveilleux s'il voit en nous l'expression de ce plan-là. Au milieu de toutes les divisions, nous devons être un. En action, en objectif. En action, en objectif. Dans un monde qui entre en opposition pour des intérêts futiles, nous sommes plus que jamais appelés à être un, à être un. C'est là que la vraie restauration commence. C'est là que la vraie restauration commence. Je vais finir par cette petite histoire. Et cette histoire, c'est une allégorie, ok? Pour ceux qui ont étudié la littérature, vous savez qu'est-ce qu'une allégorie, n'est-ce pas? Ce n'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire qui nous amène à réfléchir, à penser, n'est-ce pas? Et c'est l'histoire d'un vieil homme qui a eu l'occasion de visiter le ciel et l'enfer avant de mourir. Il a eu l'occasion de visiter le ciel et l'enfer avant de mourir. Et la personne qui le guidait dans sa visite, c'était Pierre. Bon, les catholiques l'appellent Saint-Pierre, ok? Et Pierre demande au vieil homme, il dit, « Où est-ce que tu veux aller en premier? » Et le vieil homme dit à Pierre, « Je vais d'abord visiter l'enfer. » Et donc, ils sont d'abord allés en enfer. Et quand ils arrivent en enfer, ils trouvent en enfer une belle salle de fête. Il y avait des peintures artistiques sur les murs, il y avait des listres illuminées, il y avait la meilleure nourriture, des boissons qu'on puisse imaginer, des très belles choses. Mais quand les vieils hommes regardent les gens qui étaient en enfer, ces gens-là n'avaient que la peau sur les os, ils étaient tout maigres, ils n'étaient pas en bonne santé. Ils étaient occupés à jurer, à cracher, à dire des choses qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Et quand il a vu tout ça, il s'est dit, non, Toto Keoku, ramène-moi, allons voir le ciel. Et donc ils sont sortis, ils sont allés au ciel. Et quand ils arrivent au ciel, ils voient presque une image similaire. Ils voient la même salle de fête, ils voient les mêmes belles peintures, ils voient les mêmes listres illuminées. Vous savez, on a une listre illuminée, donc ce n'est pas si étrange. Les mêmes listres illuminées, ils voient la meilleure nourriture, des boissons, tout ce qu'il y avait de bon que le ciel avait à offrir. Et quand le vieil homme regarde les gens qui étaient au ciel, il trouve que ces gens étaient en bonne santé, ils étaient en forme, ils parlaient, ils riaient, ils chantaient. Et le vieil homme a demandé à Pierre, « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai vu presque des images similaires. Il y a une fête là-bas et il y a une fête aussi ici. Mais pourquoi ils sont différents? Pourquoi les gens sont différents? Et Pierre lui a dit, tire un peu plus attention à ce qu'il y a sur la table. Et c'est là que le vieil homme voit que sur la table, il y avait des fourchettes et des couteaux de 4 pieds. 4 pieds, c'est environ 1,5 mètre. OK? Et quand il voit qu'il y avait des fourchettes et des couteaux de 1,5 mètre, il constate que les gens qui étaient en enfer, en fait, ils essayaient trop de se nourrir eux-mêmes. Mais avec une fourchette de 1,5 mètre, comment tu vas arriver à te nourrir? Avec un couteau de 1,5 mètre, comment tu vas arriver à te nourrir? Et donc, chacun voulait se nourrir tellement que personne n'arrivait à se nourrir. Mais ceux qui étaient au ciel avaient compris un grand principe. Ça veut dire qu'avec un couteau de 1,5 mètre, je peux nourrir celui qui est en face de moi. Et cette personne qui est en face de moi va faire quoi? Va aussi me nourrir. Va aussi me nourrir. En enfer, tout le monde était tellement occupé à essayer d'obtenir le plus possible pour lui-même que personne n'a rien obtenu. Mais là-haut, au ciel, les gens ont nourri les gens en face d'eux. Et tout le monde a été en bonne santé. Tout le monde a été rassasié. C'est ça le pouvoir de l'unité. C'est ça le pouvoir de servir les uns et les autres. Et nous allons nous lever, nous allons demander à Dieu de nous aider. On va se lever, on va prier. On va prier, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a un fardeau qu'il porte de l'année passée. J'ai dit beaucoup de choses, je sais, mais nous avons besoin que Dieu nous aide. Je ne sais pas si tu es là et il y a encore des choses de l'année passée dont tu ne t'es pas encore débarrassé. Il y a encore des choses dans ta vie dont tu n'as pas encore été délivré. C'est maintenant le moment de venir devant Dieu et lui demander de t'aider. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est le moment de venir devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi quelles sont les choses qui me rendent inefficace pour la destinée que tu as pour ma vie. Dieu de gloire, nous venons devant toi cet après-midi pour nous soumettre encore une fois devant toi. Enfin, Père éternel, que nous soyons réellement ces agents de transformation partout où tu nous envoies, Seigneur. Nous voulons voir ta transformation, ta restauration dans cette paroisse, Seigneur. Nous voulons te voir agir grandement, puissamment au milieu de nous, mais nous croyons que nous ne pouvons le faire si nous ne sommes pas ce genre de personnes, Seigneur, qui nous soumettent à ta volonté. Si nous ne sommes pas ce genre de personnes qui sont en synergie avec toi. Si nous ne sommes pas ce genre de personnes, Seigneur, qui agissent seules et qui n'associent pas les autres à la tâche, Seigneur. Dieu de gloire, nous venons devant toi. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont encore des fardeaux de l'année passée, qui ont encore des choses qui les enchaînent. Ça peut être des addictions, ça peut être, Seigneur, la peine ou la culpabilité de l'année passée, ça peut être beaucoup d'autres choses que je ne sais pas nommer, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi je viens devant toi et je te prie de toucher chacun, Seigneur, là où il en est dans sa vie. Père éternel, viens et délivre-nous. Père éternel, viens et développe-nous. Fais de nous, Seigneur, ces personnes qui seront efficaces pour ton œuvre ici à la CBK Gomaville, mais aussi partout où tu nous envoies, Seigneur. Fais de nous des personnes qui vont réellement vivre ta destinée, Seigneur, être ces ambassadeurs, ces personnes qui te représentent, ces personnes qui sont l'expression de ton royaume ici sur terre, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu vas le faire, car c'est dans les noms précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?